RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur les Champs-Élysées. Et oui, le terme de ce Tour de France qui s'achèvera donc tout à l'heure aux alentours de 19h30 sur la plus belle avenue du monde, baignée de soleil aujourd'hui à l'occasion de cette 21e et dernière étape du Tour de France 2016. Les Champs-Élysées est une vieille tradition dans le Tour de France puisque la première fois que le peloton a terminé le Tour ici, eh bien c'était en 1975.
C'est Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Voilà, c'était un faux départ. Voilà, il fallait attendre la 21e et dernière étape de ce Tour de France pour connaître quelques petits soucis techniques, l'électricité qui s'est arrêtée soudainement de nous éclairer et de nous permettre de retransmettre donc cette 21e étape du Tour de France. Mais rassurez-vous, nous sommes là et nous sommes bien là jusqu'à 20h. Profitez-en parce que à partir de demain, ce sera les vacances pour tout le monde ou presque. Ils sont là, ils sont venus avec moi, ils sont un peu fatigués après ces 3 semaines de course, mais bon pied, bon œil encore évidemment. Fred Adam, moins bien rasé que ces derniers jours quand
ça
même.
Ça se voit alors,
oh
d'accord,
là,
très bien.
Tout de suite,
moi aussi. Je suis dans le fictif, le départ fictif. Vous savez que sur toutes les étapes du Tour, il y a un départ fictif et un départ réel. Le peloton du Tour est en ce moment dans le fictif à Chantilly et c'est vrai que cette panne d'électricité, bah heureusement qu'elle est intervenue avant le départ réel, notre départ réel. Bonjour à tous.
Même si évidemment l'étape du jour est une étape de prestige, pas vraiment une étape de compétition, sauf peut-être pour les sprinteurs et pour certains qui tenteront tout à l'heure de s'échapper pour aller remporter cette étape importante, évidemment, même si personne ne se souvient le lendemain de celui qui a remporté la dernière étape du Tour de France, sauf les coureurs, évidemment.
Jérôme
Pinot a toujours rêvé de l'emporter sur les Champs-Élysées.
Et pas que.
Il a même tenté plusieurs fois de s'échapper du peloton. Mais aujourd'hui, tu vas arriver en tête, mon cher Jérôme, puisque tu seras avec nous dans le camion. Tu es déjà sur les Champs-Élysées. Ça va, Jérôme?
Ça va très bien. On y est bien sur les Champs-Élysées. C'est vrai que c'est la première fois depuis 14 années que je finis aussi frais le Tour de France.
Oui, alors finalement, je voulais te poser la question. C'est moins dur de le faire en tant que consultant que comme coureur cycliste quand même.
Ouais, je t'aurais pas dit la même chose au bout de 5 jours parce que j'ai eu un départ difficile. J'étais pas prêt. J'avais un peu négligé l'entraînement.
T'as trouvé la boîte à pharmacie.
Mais après, voilà, après, on s'est réhabitué et finalement le rythme est venu. Non, ça va très bien, ça va très bien. On est frais, on est content d'être là, on est content d'être arrivé. Je crois que les coureurs aussi sont contents d'être arrivés. Mais après, une fois sur les Champs-Élysées, après ce long départ fictif, le plus long du Tour de France, on va entamer les champs et là, c'est plus la même. Je crois que quand on est surpris la première fois quand on arrive sur les champs, déjà, on a cette image d'une avenue toute plate. Elle est loin d'être plate. Le pavé tape beaucoup et les coureurs se remettent très vite dedans parce qu'il y a cette excitation. Et les champs, c'est un stade et on a peu l'occasion de faire du vélo dans les stades. Et là, c'est vraiment incroyable.
Alors, Fred le disait, il y a un départ fictif et un départ réel dans cette dernière étape du Tour de France. Mais on a l'impression que le départ réel, il est au moment où le peloton rentre
dans
Paris.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les à-coups du kilomètre zéro n'auront pas lieu aujourd'hui. Il n'y aura pas d'attaque. Ça va être très tranquille jusque les Champs-Élysées. Et puis, traditionnellement, l'équipe du maillot jaune avec le maillot jaune dans sa roue met en route tranquillement, passe en tête sur le premier passage sur la ligne sur les Champs-Élysées. Et là, ensuite, la course est lancée.
Ouais, c'est une tradition. Bonjour, monsieur le Druidier, là aussi, il est avec nous. C'est
peut-être je suis là. Bonjour, mais je suis heureux qu'il finisse en bonne forme, notre ami Jérôme. Bon, ça a été difficile. Après, il a fallu s'occuper de lui un petit peu, le remonter, lui donner quelques fortifiants. Comme il n'avait pas de contrôle, finalement, il finit super costaud. Quoi.
on compte sur toi pour les fortifiants, Cyril.
Jérôme évoquait tout à l'heure la tradition qui veut que le maillot jaune du Tour de France entre en tête sur les Champs-Élysées. C'est une véritable tradition. C'est écrit dans les manuels et dans le règlement du Tour de France, ça. Ou alors, on peut imaginer quelqu'un qui parte à bride abattue dès le départ de cette étape.
Alors, non, ça n'était pas une tradition. C'est devenu une tradition lorsqu'on est arrivé sur les Champs-Élysées. Mais avant d'arriver aux Champs-Élysées, lorsqu'on arrivait au Parc des Princes et ensuite à la Cipale dans le bois de Vincennes, on avait une vraie étape. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de circuit, il n'y avait pas un circuit final. Donc vous arriviez sur le Parc des Princes, le vélodrome, vous rentriez là sur ce vélodrome et vous aviez l'arrivée immédiatement après. C'était la même chose, bien sûr, à la Cipale, donc au vélodrome de Vincennes. Et c'est seulement depuis lorsque nous arrivons sur les Champs-Élysées, qu'il y a eu progressivement une forme d'entente, mais pas toutes les années. Rappelez-vous, il y a quand même une année où Zoutemel et Hino sont partis bien avant l'entrée des Champs-Élysées. Ils sont partis dans la côte de... Comment on appelle ça? La côte de l'homme mort? Non, pas de l'homme mort. Côte de...
C'était où avant quelle ville? Côte de l'homme mort, c'est possible, hein?
Non, c'était...
En bas de Vélizy,
Non, c'était juste avant Boulogne. Le nom m'échappe. Et là, il y avait Zoutemel qui avait attaqué.
C'est pas la côte des gardes?
C'est ça.
Il
y avait Zoutemel qui était deuxième... Zoutemel qui était deuxième du classement général et qui a attaqué. Donc on n'attendait pas les Champs-Élysées. Bernard Hinault est revenu et au lieu de se relever avec Zoutemelk, qu'est-ce qu'il a fait ? Hinault, il a tout mis à droite et il a enquillé. Et ils sont arrivés tous les deux sur les Champs-Élysées. Le peloton n'a jamais pu revenir. Et bien sûr, au sprint, c'est Bernard qui l'a emporté devant Job Zoutemelk. Donc, vous savez, tant que les coureurs acceptent effectivement cette neutralisation, ce départ fictif, comme disait Jérôme tout à l'heure, bon, ça va bien. Mais le jour où un coureur veut faire le départ, il a le droit de le faire.
On va pas l'engueuler, on va pas lui mettre...
Philippe Gilbert, une année, il l'a fait.
Moi, le premier que j'ai vu faire ça, c'est le meilleur ami de Lance Armstrong, Simeoni.
Qui a eu quelques soucis
et démêlés avec Armstrong.
C'était une provocation envers Lance Armstrong.
Et je peux vous dire que là, Simeoni, alors quand il a fait ça, il avait un ennemi dans le peloton, c'était Armstrong, et après il en avait 180 parce que moi le premier à boire un verre de champagne à l'arrière avec mon directeur sportif.
Mais ça, faut pas déranger quand tu bois du champagne.
J'ai dû jeter la coupe et je m'étais pas content après lui. Non, c'est traditionnel.
Cyril parlait de Philippe Gilbert qui effectivement avait tenté la chose. C'était justement dans la côte des gardes, celle
avant de tomber. Avant de tomber, parce qu'il pleuvait, il avait fait la côte des gardes, il était tombé dans la descente.
Je crois que Georges Hincapie avait chuté aussi. Georges Hincapie qui était un coéquipier de Lance Armstrong et du coup ça avait mis en colère le Texan, évidemment. A priori, aujourd'hui, il n'y aura pas ce genre de coup d'audace, pas d'animosité, non. Pas de lutte de pouvoir ou pas de rébellion.
Fred, ce serait quand même dommage. Ils ont attendu la 19e étape avant d'attaquer le maillot jaune. Ils vont pas nous faire ça aujourd'hui, quand même.
Bah, ce serait super qu'ils le fassent aujourd'hui.
Tu vois, Quintana attaque aujourd'hui, toi, moi, j'y crois pas.
Non, mais attends, moi, je veux bien que si tout le monde est complice pour faire ce genre de choses, alors à ce moment-là, faut donner le départ ici.
Oui. Ce serait pas,
et puis,
ce serait pas idiot.
Parce que il y a un moment, attendez, bon, je comprends qu'on ait envie de, mais c'est pas la course. La course, c'est
Guimard est un révolutionnaire à 70 ans. Il a décidé d'attaquer la révolution. Pas encore à 70 ans. Bientôt, pas encore tout de suite.
Ah, parce que vous n'aimez pas les révolutionnaires.
Mais moi, j'adore les révolutionnaires.
Ah bon.
Alors là, surtout.
Heureusement qu'il y a eu 1789. Sinon, on aurait encore les seigneurs et les rois. Et
oui, il y aurait pas de vélo. Alors justement, nous allons tout de suite partir sur la tête de course puisque ça ne se passe pas sur les Champs-Élysées pour le moment, mais à Chantilly, où Georges Quirino se trouve sur la moto RMC, évidemment, accompagné de son fidèle Marco, la moto RMC, à côté des coureurs qui font pour l'instant du cyclocross. Salut Giorgio, comment ça va?
Salut Christophe, bonjour à tous. Ça va très bien. Ça va très bien pour les coureurs aussi actuellement qui sont autour du domaine de Chantilly, souvent le domaine de Chantilly, autour du château, les magnifiques jardins notamment. Oui, ce sont des routes de terre là pour les coureurs qui envoient de la poussière un petit peu partout pour le départ de cette étape où il y a beaucoup de sourires tout de même, et on prend cette étape un peu moins au sérieux. Effectivement, on voyait par exemple Samuel Dumoulin, le coureur de l'équipe AG2R à Mondial, qui disait tout à l'heure on va encore faire du vélo aujourd'hui. Bah oui, il y a encore du vélo aujourd'hui jusqu'aux Champs-Élysées tout à l'heure, notamment pour sécuriser une fois encore, si c'est vraiment nécessaire, le maillot jaune de Christopher Froome qui l'a ce matin en jaune, tout comme ses coéquipiers Christophe, puisque les coureurs de la formation Sky arborent ce matin un maillot noir avec à la place d'une bande bleue verticale au milieu une bande jaune pour les coéquipiers de Christopher Froome, peut-être pour s'approprier aussi un petit peu ce maillot jaune. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est jaune chez Sky ce matin. On a l'habitude de voir chaque année le bus, les voitures également. Cette année, ils ont une voiture, une Mustang, pour ne pas citer la marque, qui est jaune intégrale et qui a même bien fait sourire certaines équipes adverses qui se sont dit bon bah ils en font pas un petit peu trop là quand même, nos amis de chez Sky, en tous les cas qui fêtent bien le troisième succès à venir de Christopher Froome sous le soleil ici à Chantilly pour le départ. départ fictif toujours pour l'instant, parce qu'il y a 15 km avant le départ réel.
Voilà, alors il n'y a pas que les coureurs qui portent une tenue particulière aujourd'hui, on a même croisé sur la route, on a même doublé sur la route, Fred, tout à l'heure, les voitures de la formation Sky qui elles aussi ont changé de couleur à la place de la bande bleue, et bien nous avons une bande jaune, et c'est ce que disait, excusez-moi, j'étais en train de parler à quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, on est un peu déconcentré, c'est le premier jour. Cyril, est-ce qu'on a le droit de changer de tenue comme ça sur le Tour de France? Je crois qu'il y a quelques années, une équipe avait tenté de le faire, Jérôme, et ils avaient pris une amende. Hein.
L'équipe Radio-Shack à l'époque de Lance Armstrong, encore lui, qui avait voulu mettre un maillot de couleur jaune, et on lui avait, ils avaient été, ils avaient pris une grosse amende, et on leur avait même demandé de changer expressément de tenue. Ils avaient tous changé les maillots au départ. C'était en 2010, et ça avait encore une fois pas plu à Lance Armstrong, qui à l'époque pensait qu'il était un peu le patron de tout dans le.
Et donc aujourd'hui c'est possible alors?
Je suis pas sûr. Hein. Je pense que mais chez Sky on peut payer l'amende.
Oui, on peut payer l'amende.
C'est pas ça. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à le faire contre le règlement, puisque c'est interdit par le règlement, ça veut dire que c'est bien eux les patrons.
À l'époque, l'amende avait été de 4500 francs suisses pour la formation Radio Shack, et le manager de l'équipe Radio Shack, Johan Breunel, le Belge, avait déclaré: pour être commissaire de course, il ne faut pas avoir de cerveau, mais seulement connaître les règles. Leur mot d'ordre, c'est le règlement. Voilà.
Mais bon, Brunel, je suis désolé, ça ne veut pas dire que parce que vous appliquez le règlement, vous êtes dénué de neurones.
Si Johan Brunel avait appliqué tous les règlements, il serait peut-être encore là aussi. Lui.
Ça serait également.
Et Armstrong ne serait pas déclassé de la plupart des classements du Tour de France.
En tout cas, la photo qu'on a.
Donc, ce serait bien qu'il devienne intelligent, lui aussi.
Christophe, la photo qu'on a devant nous, c'est les trois premiers du classement général: Christopher Froome, Nairo Quintana et Romain Bardet. Et quand on regarde le gabarit, on ne pourra pas gagner le Tour de France, nous. Hein. Faudrait plutôt être.
Ou alors
être
en début de tour.
Ils sont affûtés, surtout au bout de 3 semaines. Combien on perd de kilos d'ailleurs au cours de 3 semaines de course, Jérôme?
Normalement pas beaucoup. Hein. Normalement pas beaucoup, parce qu'on fait du vélo tous les jours, on se nourrit comme il faut sur le vélo. Normalement, quand on fait une course de 3 semaines, on arrive affûter. C'est de l'ordre de 1 kg, 1,5 kg pour les coureurs qui sont affûtés au départ. Maintenant,
quand on est suiveur, on en prend beaucoup plus.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, combien on en prend quand on est suiveur?
Moi, c'est la première fois en 14 années que je suis plus gros à l'arrivée qu'au départ. Voilà.
Mais pas beaucoup.
D'ailleurs, Madame Pinou, qui est présente sur la ligne, m'a attendu à peu près 7 minutes 30 pour me le signifier.
Très bien.
Elle qui ne t'a pas reconnu à votre lieu de rendez-vous.
Qui m'a demandé où était. Elle m'a pris pour un autre.
Vous avez vu Jérôme Pinot? C'est moi, ma chérie.
Avec cette photo, Fred, donc en tête de course, je ne sais pas si Georges voit la tête de course, je ne sais pas où il est situé exactement. Mais en tous les cas, comme le disait Jérôme, il y a tous les maillots distinctifs qui sont là, il y a tous les leaders du classement général. On a même vu Romain Bardet discuter il y a quelques instants avec Christopher Froome. Aujourd'hui, il n'y aura pas de bagarre, ils se sont assez bagarrés comme ça, même si on aurait espéré un tout petit peu plus quand même.
Mais Romain Bardet, il ne faut pas dire qu'ils se sont assez bataillés comme ça.
Oui.
Il y a eu une étape, et encore sur les 25 derniers kilomètres. Attendez, il ne faut pas travestir la vérité.
Ne la travestissons pas, donc, la vérité. Toujours donc dans ce défilé en direction du départ réel de cette étape. Georges, on va retourner sur la moto. Ça va pas très vite aujourd'hui. Hein. Attention à pas tomber. Hein. Vous êtes presque à l'arrêt avec Marc.
Ah, mais ils ont mis des roulettes.
Oui,
hein.
c'est le départ fictif. Hein. C'est normal. C'est le défilé pour les coureurs avant le départ réel dans quelques kilomètres. Il y a beaucoup de spectateurs aujourd'hui sur la route pour encourager ces coureurs. Avec qui, Christophe? J'ai fait le transfert ce matin.
Mais bien sûr.
Depuis Morzine, hein, puisque les coureurs ont tous dormi à Morzine cette nuit. Ils ont ensuite pris des bus, des navettes en direction de Chambéry, l'aéroport, où ils se sont envolés aux alentours de 11h30, direction Roissy, pour arriver ensuite ici sous escorte à Chantilly. Quelques images un petit peu marrantes de ce matin. Alors déjà, tu sais, Christophe, qu'on a failli pas avoir de coureurs au départ. Hein.
Ah bon?
On a failli,
quoi, l'avion
a failli pas
tomber,
avoir de coureurs au départ, puisque à Morzine, au moment où les bus allaient partir, il y a un monsieur qui habite dans un chalet qui est nommé les Trois Biches, qui a reculé, paf! Il a pris le bus, paf, il a repris le bus, paf, il a repris le bus des coureurs. Il a fallu faire un constat et tout ça, donc c'était assez ubuesque. Ça a beaucoup fait rire André Greipel, Tony Galopin et les coureurs de l'équipe FDJ qui étaient là présents. Bref, on a pris un peu de retard sur le départ tout à l'heure. Ça amusait beaucoup moins la direction du Tour de France et Christian Prudhomme, je peux vous l'assurer.
C'est voilà, quelqu'un qui n'aimait pas le Tour de France, ou c'était involontaire?
Non, c'était un monsieur qui voulait aller faire son marché le matin et qui était visiblement un peu dans la lune.
Voilà, tout simplement. Non, aucune animosité.
Okay.
C'était surréaliste comme scène à Morzine. Voilà, on est ensuite parti sous escorte. Et puis dans l'avion, j'étais juste à côté des Movistar avec les FDJ également. Et j'ai vu un aéro Quintana qui a lu la presse, hein, comme beaucoup de monde ce matin, comme Romain Bardet également, qui a lu l'équipe et qui a apprécié de voir son visage en une, qui réalise un petit peu. Hein, il nous l'a dit ce matin, même s'il réalisera totalement tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Voilà, des petites scènes marrantes où on se montre les photos qu'on a vues pendant tout le Tour de France. Nairo Quintana qui, lui, ne voulait pas trop lire l'équipe au début, parce qu'en voyant le classement général, il n'avait pas l'air d'être trop content, le Colombien, qui a préféré ouvrir toute la revue sur les compagnies aériennes et qui disait à son collègue à côté, tu te rends compte, avant avec le Concorde, on pouvait aller en 2h30 en Colombie, c'est incroyable. Donc voilà, pour les petites images.
Ah, il a envie de rentrer, hein, Nairo.
Ouais, voilà, il avait envie de rentrer. Visiblement, en tout cas, il y a toujours des scènes un petit peu marrantes à voir le matin. Il y en a beaucoup qui ont fait la sieste, hein, aussi, évidemment, ce matin dans l'avion, où ils ont tout de même tous pris une petite collation avant d'arriver ici à Chantilly pour le départ à 14h. Il y avait beaucoup de monde, et beaucoup de monde, Christophe, pour encourager Romain Bardet, qui a vraiment une popularité nouvelle qui est incroyable. Hein. Il a passé beaucoup de temps à signer des autographes ce matin à Chantilly, et il se prête à ce jeu-là, même si on l'a trouvé un peu ce matin un peu tendu. Quand même, c'est ce qu'on nous disait aussi dans l'équipe, on l'a jamais vu prendre autant de temps pour se préparer, pour s'habiller, pour prendre son vélo. Il avait le visage un peu fermé. Voilà, il représente quelque chose, et on a l'impression qu'il prend conscience tout de même qu'il représente quelque chose aujourd'hui aux yeux de tous les suiveurs. Romain Bardet, qui a indéniablement pris une autre dimension sur ce Tour de France.
Ouais, c'est une journée spéciale, Jérôme, pour Romain Bardet. Quand on termine deuxième du Tour de France, chose qui n'est pas arrivée très souvent quand même depuis quelques années, depuis la victoire de Bernard Hinault en 1985, c'est quand même énorme de terminer sur le podium des Champs. Il n'y en a eu que quelques-uns. On pense évidemment à Jean-Christophe Perrault, qui était le dernier à l'avoir fait il y a deux ans. Il y avait eu Jean-François Bernard, il y a eu Bernard Hinault aussi l'année après sa victoire en 86. Qui avions-nous eu aussi? Richard Virenque en 1997, me semble-t-il, qui avait fait deuxième et troisième. Donc ils sont assez peu nombreux finalement, et aujourd'hui ça vous change un homme, hein, en termes de popularité. Toute la France désormais connaît Romain Bardet.
Ah oui, c'est clair, il va s'en apercevoir, surtout aujourd'hui. Et puis en plus, connaissant Romain, et quelqu'un qui est très très tatillon, qui est très minutieux, qui a préparé ce Tour de France au millimètre, au micromètre, je dirais même. Moi, je pense que Romain, il a aussi encore dans l'idée qu'aujourd'hui, il y a encore une étape, que c'est les Champs-Élysées. Certes, il ne s'y passe pas grand-chose, mais quand même, restons concentrés. Il n'a pas une énorme avance sur le deuxième et le troisième. Il se doute que ses adversaires ne vont pas l'attaquer. Mais une cassure, une chute, quelque chose, il doit y penser quand même. Donc, il reste concentré. C'est normal. Il est très professionnel. Moi, je pense qu'il va vraiment savourer ce soir, quand il aura passé la ligne, qu'il sera sur ce superbe podium qui fera face à la Concorde, dos à l'Arc de Triomphe. Et là, il va dire, là, je suis passé dans une autre dimension.
Alors, messieurs, vous le savez, ces Champs-Élysées sont le théâtre de l'arrivée du Tour depuis 1975. Et il y a quelques années, on avait vu presque des larmes sur le visage de Cyril Guimard. C'était en 1989, lorsque pas de larmes, mais de la tristesse quand même.
Non, ce qui vient, c'est qu'on en reparle.
Ah oui, mais il faut en reparler, parce que figure-toi, Cyril, que Greg LeMond se trouve à quelques mètres à côté de nous. Il est en compagnie de Pierre-Yves Leroux, justement, je crois, à Pilou.
Oui, exactement, Christophe. J'ai décidé pour la dernière étape de ne pas courir, aller partout sous la pluie. Je vais me mettre au pied du camion, au pied du studio, comme ça on sera plus tranquille. Et en plus, il y a Greg LeMond qui est là, donc c'est merveilleux. Greg, quand on est sur les Champs-Élysées comme ça, tout de suite, il y a des images qui reviennent. On imagine, tous les ans, on vous en reparle.
Oh, tous les ans, on parle de moi? Non, mais pour moi, quand j'arrive sur le Champs-Élysées, j'ai des très très bons mémoires, mais c'est, quand même, c'est spécial pour un cycliste. C'est sûr, pour moi, c'est le Tour de France.
Et c'est cette année 89 aussi, particulièrement avec ce contre-la-montre?
Oui, 89, puis 86 aussi, et même 90. Mais 89, ça reste dans un moment très fort, parce que finalement, j'ai battu... Non, je n'ai pas battu. C'est Guimard, il a... Finalement, je me sens mal. Honnêtement, j'aime bien finir. Et je peux dire que j'ai senti mal quand j'étais sur le podium, parce qu'il a perdu 8 secondes. Mais pour moi, c'était aussi une émotion de plus que j'étais très loin et de... 8 semaines avant, je voulais quitter le vélo, et à un moment-là, j'ai gagné le tour. Même si j'ai fait deuxième, j'étais content. Mais c'était un fort mémoire parce que c'était plutôt entre ma femme et moi. On a souffert beaucoup pour 12 ans. Et de réussir comme ça, c'était... souvent, quand tu gagnes le tour, c'est anti-climax. Ça veut dire que tu as déjà dans le maillot et tu as toujours peur de tomber. Là, c'est... Finalement, c'est toujours... quand tu es sur les Champs-Élysées, si ce n'est pas en contre-monde, tu es nerveux jusqu'à ce que tu franchis la ligne. Parce que comme Cyril dit, le cours n'est jamais fait sur la ligne de l'arrivée.
Cyril est descendu. Cyril est descendu du camion. Cyril, c'est un moment très particulier cette année 89 quand même.
Ben c'est, oui, un moment très particulier, mais un grand moment de cyclisme. Puisque tout s'est joué sur les derniers kilomètres. Il y avait un écart qui était relativement important, un peu moins d'une minute avec Laurent. Laurent, malheureusement, était blessé. Mais ça fait aussi partie de la course et il manquera 8 secondes à Laurent Fignon pour remporter son troisième Tour de France, ce qui permettra à Greg d'ailleurs de gagner son troisième Tour de France. Et puis bon, l'histoire est passée. Je retiens d'une chose, c'est que finalement cette année-là, j'avais mes deux coureurs sur le podium.
Ça c'est vrai. Oui, il a gagné, finalement il les produisait avec nous 10 Tour de France, Fignon et moi. C'est pour ça que j'ai dit, finalement, 89, c'était le même directeur. Et il était très aérodynamique aussi. C'est ça, des fois, j'ai présenté avec Fignon, j'ai dit, non, c'est Guimard. Il disait que tu ne respires pas.
Mais messieurs, il y a surtout...
C'est tout nouveau. Guimard, même moi, j'ai testé un jour. J'ai dit, j'étais à l'aise, mais... Tu sais, c'est quand même, je dis des fois que je suis heureux pour moi-même, personnellement, pour ma femme et moi, parce que c'était pas que de gagner le Tour de France, c'est de revenir de très loin et de gagner. Mais à la même époque, la même façon, j'ai l'émotion aussi pour Fignon, parce que même quand je suis avec lui, tout le monde disait, ah, Greg, tu as gagné à 8 secondes. Elle a dit, Fignon, pop, comment tu as perdu à 8 secondes? Et ça fait mal pour lui. C'était difficile.
Il y a quelque chose qui est resté, c'est forcément un contre-la-montre le dernier jour sur les Champs-Élysées. Mais Greg, au sein de l'équipe RMC, il y a autre chose qui est resté. C'est que Cyril a porté des Santiago et un chapeau de cow-boy pendant toutes les heures qui ont suivi. Alors on voudrait que les auditeurs sachent ce qui s'est passé. Cyril, c'est le moment de nous raconter.
Non, on va laisser à Greg raconter. Oui, alors en fait, bon. Je suis reparti là-bas habillé en vrai cow-boy. Et Greg d'ailleurs m'avait fait cadeau d'une paire de bottes là, mais les vraies bottes, des vraies bottes de cow-boy. J'ai mis le petit gilet et en fait je suis arrivé à Paris habillé comme ça. Problème d'avion, je remonte dans un avion qui doit m'emmener à Nantes, mais là toujours habillé en cow-boy. Donc là ça commençait à les voyageurs commençaient à me regarder d'un drôle d'œil. Sauf qu'on peut pas atterrir à Nantes parce qu'il y a du brouillard. L'avion continue donc sur l'Orient. On peut pas atterrir, il y a toujours du brouillard. Et finalement on atterrit où? À Rennes. Et donc là j'arrive dans l'aérodrome en cow-boy. Personne m'avait reconnu à ce moment-là. Et après on prend un car pour aller à Nantes. Voilà. Donc l'histoire a été assez longue en cow-boy. Le pire, c'est que j'étais de baptême ce jour-là et le baptême de la fille de Yvon Bertin.
Non.
Donc je suis arrivé
en cow-boy.
Je suis arrivé en cow-boy.
Je savais pas cette histoire, mais je connais l'histoire quand il est venu chez moi avec Bernard Hinault. On est monté sur les chevals, mon père l'avait enlevé des chevals. Et mon père a fait de rodeo avec les vaches, il coupe. Mais c'était dans une vraie région de Ranch. C'était le Bonanza, cet endroit de Bonanza, le film.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir replongé un peu dans l'histoire, alors que la caravane publicitaire là, arrive sur les champs et puis que les coureurs se promènent tranquillement encore.
Je dois chercher le Haribo, je dois chercher le bonbon. Excusez-moi, je devais quitter. Non,
merci beaucoup, Greg. Merci d'avoir répondu aux questions d'RMC. Et puis, bonne étape, évidemment. Bonne dernière étape sur les champs.
Okay.
Merci.
Merci, Greg. Merci, Pierre-Yves. C'est toujours un bonheur d'entendre Greg Lemon qui était l'idole de Fred, de Jérôme, de moi également, et c'est un grand bonhomme et toujours la banane, toujours sympa. C'est vrai que c'est un grand monsieur.
Oui, il a longtemps été, on va dire, privé de Tour de France. Ouais. Après sa carrière, banni du Tour, non pas pour des bonnes raisons, mais parce qu'il y avait un autre Américain qui faisait tout pour lui interdire l'accès, pour l'écraser. Les propos de Greg vis-à-vis de Lance Armstrong avaient fâché le Texan, ancien septuple vainqueur du Tour, et du coup par avocat interposé, par lutte d'influence ô combien intense. Lance Armstrong était parvenu à ses fins en empêchant Greg de venir nous rendre visite et rendre visite au Tour de France qui fait partie de son histoire et dont Greg fait partie évidemment.
Et on verra tout à l'heure que Greg LeMond a eu une influence sur beaucoup d'Américains et notamment des managers américains qui aujourd'hui veulent investir dans le vélo en souvenir de Greg LeMond qui a porté vraiment ce sport aux États-Unis, peut-être plus que Lance Armstrong, et en tous les cas d'une manière plus positive évidemment. Juste un petit tour à la moto RMC, Georges Quirino toujours dans le défilé avant le départ réel qui va être donné dans quelques instants maintenant, Georges.
Exactement, parce que le défilé est long, hein, on vous le disait, à 15 km de défilé dans le domaine de Chantilly pour les coureurs qui peuvent prendre le temps de discuter de revenir sur ce Tour de France entre une nouvelle fois. Le maillot jaune, notamment Christopher Froome, dans les premières positions de ce peloton sous le soleil, donc après la pluie hier à Morzine. Il est bien content de retrouver le soleil de la région parisienne, du département de l'Oise surtout actuellement, pour les coureurs avant le départ réel dans quelques instants.
Très bien, on revient vers toi dans quelques instants justement pour le départ réel de cette 21e et dernière étape du Tour de France. Nous sommes sur les Champs-Élysées où la caravane est en train de passer. On ne l'avait pas vue encore depuis le départ de ce Tour de France. Elle est là, bien en avance sur les coureurs qui arriveront ici aux alentours de 19h sur la ligne d'arrivée finale. Mais ils vont tourner un paquet de fois, 8 fois je crois, sur les Champs-Élysées. Allez, on revient dans un instant pour l'intégral Tour. C'est la dernière aujourd'hui, à tout de suite.
Le point sur la course avec Seiko X-Changer, votre équipement optique sur mesure pour le sport.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Pour la 21e et dernière étape de ce Tour de France 2016, le peloton qui va s'élancer dans quelques instants de Chantilly en direction des Champs-Élysées avec le départ réel qui sera donné dans quelques instants, alors que la caravane passe en klaxonnant ici sur la ligne d'arrivée aux Champs-Élysées avec cette image à l'avant ou à l'arrière du peloton de toute la formation Sky qui entoure le maillot jaune. Fred, c'est des images pour les photographes aujourd'hui, hein, pour la galerie. Après, il y aura les coupes de champagne.
Oui, pour eux également, ils se font des petits selfies, les coureurs cyclistes. D'habitude, ils n'ont évidemment pas le droit d'avoir des appareils bien à eux. Là, on aperçoit notamment le Britannique Luke Rowe sortir la GoPro, ces petites caméras qui sont utilisées pour avoir des images embarquées du peloton. Là, évidemment, c'est plutôt des souvenirs, sinon de vacances, des souvenirs de gloire que Luke Rowe est en train d'immortaliser par voie digital. Effectivement, l'intégralité de l'équipe, la formation britannique Sky dans son ensemble, qui finit comme pas mal d'autres équipes d'ailleurs au complet, 9 coureurs, ils sont tous à l'arrière et effectivement ils se massent autour de Christopher Froome. On attend tout de même les coupes, le champagne, peut-être que ça va intervenir.
C'est la bière.
Christopher Froome qui a 3 poches à l'arrière de son maillot jaune et qui a une bouteille dans chaque poche.
Et il est britannique,
il en a une dans la main gauche. C'est lui qui va faire le porteur de bidon, mais pas du tout le porteur d'eau, porteur de mousse. Une bonne binouse avec la température qu'il fait. Je pense que les coéquipiers seront forcément...
On parlait du règlement, vous savez que c'est interdit d'avoir une bouteille en verre pour un coureur.
Là, effectivement, c'est une journée un peu particulière. Ils se sont tous tenus par l'épaule, le vélo sans les mains, look mam no hands, comme disent nos amis britanniques. Ils vont savourer 9 bouteille de 25 centilitres de bière. On ne citera pas la marque, mais elle a l'air bien bonne, elle a l'air bien ambrée, cette bière.
Ils vont finir complètement torchés, Jérôme, parce que là, après 3 semaines de course comme ça, à boire un peu d'alcool, quand on a aussi peu de graisse sur le corps,
ça risque de leur
faire tourner la tête un peu.
Ça va leur tomber dans les sockets, ça c'est sûr.
Le
voyage paraîtra moins long.
Normalement, il n'y a pas le droit d'avoir de bouteille en verre avec soi, mais normalement, sur la route du Tour, on doit avoir un taux d'alcoolémie à zéro.
Oui, les chauffeurs de
les coureurs aussi, normalement, c'est la route du Tour, c'est le même code.
Mais enfin, quand on sait qu'ils ont le droit d'utiliser des oreillettes alors que les conducteurs de véhicules...
Alors que c'est interdit par le code de route. Oui.
Très bien. En tous les cas, tout le monde est en train de boire un coup. En tous les cas,
sauf Luke Rowe, le coureur britannique qui a décidé d'arroser tout le monde en faisant mousser la bière façon bouteille de champagne. Il ne sera pas pété pour l'arrivée sur les champs. Luke Rowe, qui fait partie des poissons pilotes de la formation Sky. La formation Sky qui, pour une fois dans ce Tour de France, n'est pas à l'arrière du peloton, mais n'est pas à l'avant du peloton, mais bien à l'arrière. Moment de festivité, ça va se poursuivre comme ça tout au long des 50 prochains kilomètres avec la traversée de l'Oise, du Val d'Oise, puis l'arrivée dans les Hauts-de-Seine avec notamment la traversée de Puteaux, puis l'arrivée à Longchamp, la Mecque des cyclotouristes et des cyclistes de la région parisienne. Et puis ce sera cap sur le centre-ville de Paris où là, Jérôme le disait, ce sera pour de bon la course. Pour l'instant, 50 kilomètres de calme avec des belles photos en perspective.
Longchamp où de temps en temps, Georges Quirino croise Cyril Guimard, où ils font une petite balade à vélo ensemble. Georges, est-ce que tu l'as encore croisé cette année, notre ami le druide, sur les pistes de Longchamp? Georges? Non, Georges ne nous entend pas.
Georges est en train de boire.
J'ai pas beaucoup croisé Georges à Longchamp cette année. Hein.
Il est peut-être en train de boire une bière, Georges, avec Marco aussi.
Georges, est-ce que tu nous entends? Je pense qu'il a enlevé son casque. Il est en train de boire un coup de. Une petite binouze bien fraîche, lui aussi. Georges?
J'entends mal, messieurs.
Est-ce que tu nous entends là?
On vous entend mal, mais oui, on est là juste devant le peloton qui prend toute la largeur de la route, qui est tranquillement derrière nous. On voit notamment Peter Sagan, le maillot vert, dans les premières positions. Le coureur slovaque qui a vu venir son fan club ce matin. Il y avait le fan club de Peter Sagan qui était présent. Tous avaient un t-shirt vert, évidemment, en honneur au maillot vert, le nouveau maillot vert emmené par Peter Sagan sur les Champs-Elysées tout à l'heure. Et d'ailleurs, il a aussi un magnifique maillot vert métal, Peter Sagan, spécialement pour cette dernière étape. Et d'ailleurs, dans son équipe, Rafał Majka, lui aussi a un magnifique cadre à pois rouge, et donc cadre blanc à pois rouge, pour fêter aussi son maillot à pois. Donc les maillots distinctifs remportés par la formation Tinkoff sur ce Tour de France.
Alors Jean, je ne sais pas si tu nous entends, mais je crois que c'est l'heure de la carte postale. Et oui, la dernière carte postale de ce Tour de France. C'est parti.
En France, ERDF devient Enedis, la carte postale des régions, avec Enedis, l'électricité en réseau.
Georges, de quoi vas-tu nous parler? Des Champs-Élysées, de Chantilly, ou peut-être de Longchamp, où tu croises, je le disais tout à l'heure, régulièrement Cyril Guimard?
Oui, où Cyril Guimard me met régulièrement deux tours, hein, où Fred Adam également est beaucoup plus rapide.
Deux tours en trois tours, Georges, hein, quand même.
Deux tours en trois tours, ouais. Exactement. Alors, on va vous parler globalement, on va dire, de cette journée. Donc on est parti de Chantilly, du domaine, du château des jardins somptueux, donc sous le soleil aujourd'hui, pour aller rejoindre Paris tout à l'heure par Argenteuil, Colombes, Courbevoie, plutôt le pont de Suresnes, ensuite pour arriver donc dans le bois de Boulogne, pour enfin voir le panneau Paris qui s'affichera devant nous. On passera notamment devant la fondation Louis Vuitton, qui a été imaginée par l'architecte Franck Guéry. On passera ensuite donc par Longchamp, vous l'avez dit, autour de l'hippodrome, la porte Maillot, puis finalement la venue de la Grande Armée. Alors ça va être une grande ligne droite jusqu'aux Champs-Elysées, puisqu'on va prendre l'avenue de la Grande Armée pour arriver déjà face à l'Arc de Triomphe, le contourner et arriver par là sur les Champs-Elysées. C'est inédit pour les coureurs du Tour de France. Les Champs-Elysées, vous l'avez dit, un endroit mythique du Tour de France depuis 1975. Avant, c'était le Parc des Princes et la Cipale. C'est une idée de l'ancien journaliste, vous me trompez si je me trompe, mais c'est l'ancien journaliste Yves Mourouzi qui avait eu l'idée de n'arriver sur les Champs-Elysées avec l'ancien co-directeur du Tour de France, Félix Lévitant. D'ailleurs, Yves Mourouzi avait carrément appelé le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, pour lui dire est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'arriver sur les Champs-Elysées. Finalement, Valéry Giscard d'Estaing avait dit ok, go. Et c'est comme ça que le Tour est arrivé sur les champs, avec toutes ces histoires. On l'avait dit, 89 Fignon, Lemon, les 8 secondes, 79 Bernard Hinault qui gagne devant Hugh Zotemelk sur une échappée. On l'a dit d'ailleurs, 4 coureurs seulement ont gagné au terme d'une échappée. On peut aussi vous parler de 1991, la chute du sprinter ouzbek avec son maillot vert, Jamaluddin Abdoujaparov, dans les derniers hectomètres de cette course. Les Champs-Elysées qui sont le territoire d'un homme qui n'est malheureusement pas là pour se battre tout à l'heure. C'est Mark Cavendish qui s'est déjà imposé à 4 reprises sur les Champs-Elysées et qui prépare les Jeux Olympiques de Rio. Donc il ne sera pas là, monsieur Champs-Elysées, tout à l'heure pour le sprint final.
Ok Georges, nous sommes donc toujours dans le défilé. On voit maintenant que Christopher Froome a abandonné la bière pour passer au champagne. Il va finir complètement
normalement complètement, il ne verra pas la ligne d'arrivée, hein. Normalement Romain Bardet a officiellement gagné le Tour de France hein, dans quelques heures. S'il continue, Christopher Froome, oh, il a trempé les lèvres, il a pris une goulée, je le soupçonne d'aller arroser les plantes autour de Chantilly dans quelques instants avec sa coupe de champagne.
Ouais, on attend ce qu'ils se mettent au whisky ou à la vodka derrière, Jérôme.
Ouais, ça doit pas être le genre de la maison. Hein. Vu l'affûtage qu'il
attention, les British, quand ils dégoupillent, ça va très très loin en général. Geraint Thomas se met au sol, hein, se met par terre assez régulièrement quand même. Hein.
Ouais, Froome, il s'est mis au sol il y a deux jours, mais pas pour les mêmes raisons. Mais là, je pense que tu offres un bon whisky à Froome et il est sur le toit. Donc,
vite fait.
C'est le seul endroit où tous ses adversaires peuvent battre.
C'est d'ailleurs assez spectaculaire d'aller dans la soirée des coureurs à la fin de chaque Tour de France. C'est là-haut, sur le haut des Champs-Élysées. Vous passez l'Arc de Triomphe et c'est une trentaine de mètres après. C'est le QG des coureurs. Et les voir après, ne serait-ce que deux bières, c'est assez spectaculaire. Ils perdent totalement la tête. On voit bien qu'ils ont été sobres pendant non seulement les trois semaines de course, mais aussi les semaines et mois qui ont précédé l'événement. Du coup, les premières gouttes d'alcool sont meurtrières pour les rescapés du Tour.
Alors Georges, le peloton qui s'approche tout doucettement du lieu de départ réel de cette étape. On vient de voir la voiture de Christian Prudhomme qui a des invités évidemment à bord de son véhicule.
Et et un invité particulier Christophe, aujourd'hui Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qui m'a rattrapé d'ailleurs par le bras avant de monter sur la moto. Il m'a dit tu sais avec qui je suis dans la voiture aujourd'hui, Georges. Il dit non, Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du Tour de France. Et oui. Aujourd'hui va disputer, on peut dire comme ça, son dernier Tour de France, parce qu'il est là en tant qu'ambassadeur de l'organisateur du Tour pour faire la promotion du Tour de France, et il a décidé de dire stop après ce Tour de France. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'invité de marque pour lui rendre hommage, c'est le blaireau aux côtés du directeur du Tour, Christian Prudhomme. Et d'ailleurs l'hommage va aller bien au-delà de la présence dans la voiture numéro 1 pour Bernard Hinault, qui sera célébré ensuite sur les Champs-Élysées, puisque avant le podium protocolaire, avant que Christopher Froome vienne récupérer son dernier maillot jaune, il y aura une haie d'honneur pour Bernard Hinault pour son dernier Tour de France. On devrait passer normalement un petit film avec ses meilleurs moments. Donc voilà, donc il va quitter la route du Tour, on va dire, avec une belle célébration tout à l'heure. Notre ami Bernard Hinault.
Oui, un défi pour Georges Quirino, c'est d'aller interroger Bernard à la portière de la voiture de direction de course. On verra on verra ça tout à l'heure. Il peut-être
Bernard nous a dit on me fait un coup une fois et après c'est terminé. Voilà, c'est terminé.
Mais donc, tu lui as rien fait, mon pauvre Georges. Voilà. Tu lui as rien fait.
Rien du tout.
Tu n'es pas le coupable dans cette affaire. Bon, enfin bref.
On rappelle qu'il avait quitté le plateau de BFM TV lorsque nous étions au départ en Corse, parce qu'il n'avait pas trop apprécié deux trois questions en rapport avec le dopage. Il était parti.
Animateur de BFM, oui, effectivement. Je m'étais levé aux aurores pour aller guider Bernard vers le point de duplex. Et effectivement, j'avais assisté au carnage et j'avais bien compris qu'une fois qu'il laissé et abandonné le micro, et ben on ne le reverrait pas de sitôt sur les antennes de BFM télé. Et depuis effectivement c'est blackout total, on est blacklisté par Bernard Hinault.
Mais
côté
Cyril Guimard peut encore lui parler quand même, au blaireau.
Mais on peut tous lui parler, bien sûr. Tombe dans les bras quasiment, tout va très bien.
En dehors du micro, non, mais il est allergique au micro quand il voit RMC dessus ou BFM.
Il est un peu rancunier quand même, le blaireau, mais bon,
c'est ce qu'a fait sa force sur le vélo.
Un vrai blaireau.
Très bien. Le peloton qui s'approche du lieu de départ réel avec cette fois-ci non plus le maillot jaune en tête, mais le maillot blanc, Adam Yates, qui a été l'une des révélations de ce Tour de France, même s'il a eu un peu de mal à terminer ces trois semaines, Cyril. Mais en tous les cas, c'est un garçon sur lequel on pourra compter dans les années à venir. Hein. Il se positionne comme peut-être un probable ou un possible futur vainqueur du Tour de France.
Oh, on peut le dire. On peut le dire, oui, c'est un possible vainqueur du Tour de France. Et peut-être pas le seul si Thibaut Pinot se refait un peu les niveaux. On a vu aussi du très bon Alaphilippe qui, il arrive à dompter ses instincts, peut aussi réaliser de très belles performances. Barguil a été un petit peu en dessous de ce qu'on attendait, mais il ne faut pas le condamner non plus. Non, je pense que... Je crois que le gros problème pour nous cette année, c'est qu'on avait mis les Français peut-être un tout petit peu trop haut, sûrement, puisqu'il n'y a que Bardet qui a survécu à ce Tour de France, mais ça ne retire rien à la valeur intrinsèque des Français qui devront peut-être tout simplement se remettre en cause. Ils auront l'obligation d'ailleurs de se remettre en cause dans le cadre de leur préparation au Tour de France, préparation physique, mais également également mental de façon à arriver au départ du Tour en vrai guerrier et en écoutant que les sirènes qui nous amènent à la victoire.
Alors parmi les jeunes coureurs de ce Tour de France, Cyril, Jérôme, qui voyez-vous un jour remporter le Tour de France? On a évoqué Adam Yates, on va parler en long en large de Romain Bardet tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui vous semblent avoir le potentiel pour un jour succéder à Christopher Froome et arriver ici avec le maillot jaune? Quels sont ceux qui vous font la plus forte impression dans le peloton de ce Tour de France 2016 ou même dans le peloton en général?
Moi, il est celui qui me fait la plus forte impression côté français, il n'est pas présent sur ce Tour de France, c'est un coureur encore une fois de l'équipage G2R qui s'appelle Pierre Latour. C'est un coureur qui est très très performant déjà en montagne, qu'on bride, qu'on essaye de ralentir un peu du côté de chez G2R, parce que c'est un vrai grand talent qui titille déjà les meilleurs. L'an dernier, il a été au contact des Contador et Quintana sur la route du Sud, très très bon sur le Tour de Suisse. C'est un jeune, un vrai grand talent d'avenir pour le cyclisme français. Il y a Julien Alaphilippe qui a montré qu'il avait énormément de talent et qu'il était très fort, qu'il était déjà au niveau mondial de par ses nombreuses bonnes places sur les classiques ardennaises. On ne finit pas, comme le disait Cyril, deuxième d'un Liège-Bastogne-Liège derrière Valverde et deuxième d'une Flèche Wallonne sans avoir du talent. Donc il fait partie de ces jeunes-là. Et puis ceux qui sont déjà en place, les Pinot et puis Romain Bardet. C'est pourquoi pas Romain Bardet combler ses lacunes, ses 4 minutes et un jour remporter le Tour de France.
Alors on va repartir vers la course car le départ réel va être donné dans un instant, Georges.
Exactement, le départ réel qui vient d'être donné. Top vient de nous dire Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, avec l'attaque de Romain Bardet sur la droite de la route. Christopher Froome qui saute dans sa roue, donc il est lâché. Non, évidemment, rien de tout ça. Rien de tout ça.
Ah, tu as bien aimé. Plaisantin, tu nous as fait peur.
Non. Peloton groupé, évidemment, tranquillement pour ce défilé, on l'imagine, pour les coureurs du Tour de France. 113 km, donc à partir de maintenant, pour les coureurs du Tour, en fait, pour les 175 coureurs qui sont donc au départ de cette dernière étape. C'était 198 en Normandie dans la Manche devant le Mont-Saint-Michel. Ils ne sont donc plus que 175 pour cette dernière étape jusqu'aux Champs-Élysées.
On doit être partagé, Jérôme, par l'envie d'arriver le plus vite possible sur les Champs-Élysées et l'envie de faire l'étape tranquillou, hein, non ?
Ouais, c'est clair. On a envie très vite d'arriver aux Champs-Élysées, de profiter du spectacle. C'est très long parfois. Moi, j'ai connu des années où on avait encore 160, 170 km le dernier jour. C'est très long pour arriver jusqu'à Paris. Mais au départ, après toutes ces festivités de photos, de selfies, on va essayer de s'organiser un petit peu du côté du peloton. Chaque coureur, deux par deux, vont passer rouler à 35, 36 à l'heure. Et puis, on va aller arriver très vite vers Paris. En général, ça s'emballe un peu quand on arrive vraiment aux portes de la capitale, où là, voilà, on est dans les villes, dans la ville, ça monte, ça descend, ça va un peu plus vite. Pour le moment, sur les plaines comme ça, ça va pas très vite. Mais c'est vrai que beaucoup de coureurs aimeraient que ça roule un poil plus vite pour arriver encore plus vite devant sur les champs et puis devant les familles et les femmes qui sont là, parce que parade devant l'Adèle qu'on a laissée depuis 3 semaines à la maison.
Alors Jérôme, on repart non pas sur la course qui vient de s'élancer, il reste encore 112 km 400, mais ça va pas très vite, donc ils ne sont pas prêts d'arriver, mais nous sommes toujours dans la zone arrivée ici autour des Champs-Élysées. Je crois que Pierre-Yves Leroux est à côté d'un monsieur qui n'a jamais porté le maillot jaune sur les routes du Tour, mais qui depuis n'arrête plus de le porter, le maillot jaune.
Exactement, il a toujours le maillot jaune sur lui, Raymond, pendant le Tour de France. Raymond Poulidor, que j'ai aperçu là, arriver sur les champs tranquillement à pied. Est-ce qu'il y a une émotion particulière, Raymond, même si vous, l'arrivée n'était pas sur les Champs-Élysées?
Oh, l'émotion, non, il n'y a plus d'émotion maintenant. C'est mon 54e Tour de France. Où il y a eu une émotion, c'est le dernier Tour de France que j'ai fait. Bon, j'avais plus de 40 ans, je savais que c'était le dernier. Et on a terminé par un contre-la-montre sur les Champs-Élysées. Et je jouais le podium avec Delisle. Et j'ai réussi à faire un podium derrière Van Nimp et Zotebeek, voilà.
C'est une bonne idée, le contre-la-montre sur les Champs-Élysées. Ça a toujours mis du piment. Vous seriez pour, à nouveau?
Oh, je serais pour, je ne sais pas. Oui, mais peut-être, mais je pense que quand même... effectuer 8 tours sur les Champs-Élysées avec un peloton aussi important que cette année. C'est la première fois qu'on voit autant de coureurs arriver sur les Champs-Élysées. Évidemment, s'il y avait un peloton réduit à 40 ou 50 unités, ça ferait triste.
Il vous a plu, ce Tour de France ?
Oui, bien sûr, il m'a plu, bien sûr. Bon, j'ai écouté régulièrement les commentaires à votre radio. Quelquefois, j'étais surpris des commentaires. Je pensais que quelquefois, c'était des pièces de théâtre qu'on jouait.
Vous dites ça pour qui ? Pour Cyril Guimard ou pour Jérôme Pinault ? Pour tout le monde ?
Non, pour l'ensemble, pour l'ensemble. Bon, quelquefois, il y avait des réparties qui étaient justes et bien. Bon, j'ai écouté Et pourquoi on n'attaque pas? Pourquoi on n'attaque pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'une deux chevaux attaque une Mercedes? C'est pas possible.
C'est Froome, la Mercedes. Hein. Il est trop fort.
Hein. Oui.
Merci beaucoup, Raymond. Bon après-midi. Profitez bien de cette dernière journée. Cette dernière journée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Il a toujours le mot. Hein. Il écoute, il est piquant. Et puis, il écoute RMC surtout.
Oui, il écoute Cyril Guimard, évidemment, pour lui mettre un petit taquet de temps en temps. Hein. C'est vrai, Cyril. Tu as reproché au coureur de ne pas assez attaquer. Ben, Raymond te dit que ça, on ne pouvait pas attaquer Chris Froome. C'était impossible.
Alors, c'est faux. Ce n'est pas moi qui ai dit que. C'est pas moi qui ai reproché au coureur de ne pas attaquer. J'ai toujours dit pour attaquer, il faut avoir les moyens. Et on n'a pas les moyens d'attaquer Froome. Alors, il y en a d'autres qui disent oui. Par exemple, Bernard Hinault, il lui dit mais il n'y a qu'à attaquer. Oui, mais attends, d'ailleurs, est-ce qu'on l'attaquait vraiment quand il était super, le blaireau? Donc, non. Quand on peut attaquer, on attaque. Quand on voyait la vitesse à laquelle ça montait, j'avais envie de dire, à part les équipiers de Froome, je vois pas qui peut attaquer, quoi. Poulse aurait pu attaquer.
Oui, coéquipier de Christopher Froome, mais bon, on n'est pas encore à l'époque où Christopher Froome, justement, attaquait ou lâchait en tous les cas son leader Bradley Wiggins avant d'être ramené à la raison par les directeurs sportifs de la formation Sky. Georges Quirino sur la moto. Cette fois-ci, la course est donc partie. Le rythme s'est un tout petit peu accéléré, mais enfin, on n'est pas prêt d'arriver non plus sur les Champs-Élysées à cette vitesse-là. Hein.
Non, effectivement, mais le rythme s'est accéléré effectivement dans la traversée de la localité de La Morlaille pour le peloton qui a un peu accéléré dans cette longue ligne droite. Il y a beaucoup de monde sur le bord de la route ici pour encourager les coureurs du Tour de France jusqu'à Paris tout à l'heure. Donc le maillot jaune qui a repris position dans le peloton sans champagne, sans bière évidemment, avec son bidon d'eau seulement pour arriver jusqu'aux Champs-Élysées tout à l'heure.
Très bien, Georges, à tout à l'heure. Donc une fois que la course aura réellement débuté, puisque nous sommes à 111 km de l'arrivée, Fred, alors il faut savoir que le peloton va passer plusieurs fois, c'est la tradition aussi, sur les Champs-Élysées. Il y aura un véritable circuit comme nous avions eu l'autre jour dans le col du Grand Colombier, sauf que là ça montait.
Je me demandais si tu allais le retrouver au fond de ton cervelet.
J'ai hésité avec la Colombière, non, c'était le Grand Colombier. Et les lacets du Grand Colombier, avec un tel panorama, on ne peut que s'en souvenir.
Oui, 8 tours de circuit aujourd'hui, les Champs-Élysées. Un peu moins de 7 km ce circuit qui monte jusque là-haut autour de l'Arc de Triomphe, qui redescend, qui longe les quais à hauteur du Jardin des Tuileries, qui passe sous le Jardin des Tuileries et qui reviennent via la place de la Concorde. Effectivement, c'est le circuit traditionnel, celui sur lequel quelques coureurs chaque année vont tâter du bitume, parce que c'est un revêtement qui est assez particulier. Aujourd'hui il fait sec, on vous le rappelle, plus de 25 degrés pour cette dernière étape. On n'aura pas la pluie qui avait marqué la dernière étape l'an passé. Tout le monde devrait en profiter, mais ça roule tellement vite et le revêtement est tellement spécifique. Il y a des petits pavés, vous savez, sur les Champs-Élysées, que souvent ça tombe, ça perce. Là il y a de la course, c'est vrai, mais pour l'instant on est encore à 110 km de l'arrivée dans cette dernière étape qui en compte 113. Ça roule au ralenti, ça discute et ça plaisante pas mal dans le peloton, évidemment groupé qui roule à 30 de moyenne à peu près, sortie du dimanche pour les 175 rescapés du Tour.
Bien mérité d'y aller mollo aujourd'hui. Allez, on va se quitter quelques instants, laisser passer les infos de 17h et revenir. Nous sommes en chambre jusqu'à 20h pour cette dernière étape du Tour de France. La course débutera tout à l'heure, mais nous allons débriefer cette édition 2016 du Tour dans un instant, juste après les infos.
RMC Intégral Tour.